Podcast by Tendance Ouest. Fait de vie, Philippe Bertin.
Bonjour, je suis avec vous, Pascal Méreux. Vous êtes le frère de Lydia, dont nous allons évoquer la mémoire. Votre sœur Lydia, 62 ans, est décédée début février, à quelques jours de son anniversaire, à l'EHPAD de Lisieux, où elle avait été placée depuis 2017. Votre sœur est handicapée et elle est décédée dans des conditions que vous souhaitez éclaircir et vous vous posez beaucoup de questions. C'est la raison pour laquelle vous avez accepté de témoigner. Est-ce que, avant de témoigner, avant de nous dire pourquoi vous souhaitez connaître particulièrement les circonstances du décès de votre sœur, je souhaiterais que vous puissiez nous parler de Lydia. Qui était-elle ?
Lydia, comme on a pu en discuter ensemble, Lydia, c'était de l'amour incarné, c'était l'innocence même. Lydia, c'est notre petite sœur qui nous a accompagnés toute notre vie. Hein. C'est enfin ma grande sœur, puisqu'elle est plus âgée de 6 ans. Elle est décédée à 62 ans, j'en ai 57. Lydia nous a toujours accompagnés. Disons que Lydia a toujours vécu avec notre mère qui est décédée en 2002. Elle a vécu 40 ans avec elle. Ça a été un drame le jour de son décès. Lydia vivait avec nous, avec notre maman, depuis toujours. Hein. Quand notre mère est décédée, Lydia a été tout naturellement placée dans un foyer.
Alors, je le disais, Lydia est handicapée. Elle avait, à la naissance, eu un problème d'oxygénation, je crois, au niveau de son cerveau.
Alors, je connais pas la pathologie. Lydia était handicapée mentale, hein, donc elle développait des troubles psychiques. C'est un handicap mental. Hein. Lydia, on peut considérer que son âge mental était autour de 7-8 ans, on va dire. Voilà, elle communiquait, elle parlait. Lydia aimait s'amuser, danser, chanter, c'était la joie même. Donc oui, Lydia a toujours vécu à la maison toute sa vie, on va dire, hein, jusqu'à le décès de notre mère. Après ce décès-là, donc elle a été évidemment placée dans une résidence protégée, un foyer d'accueil, on appelle ça. Donc la journée, elle travaillait dans un CAT, aujourd'hui ESAT, hein. Et la nuit, donc elle était hébergée dans cette résidence sur Lisieux, donc dans un foyer de vie pour elle, dans lequel elle a pu tisser des liens importants avec des amis, faire se reconstruire, on va dire, à la fois avec nous, on la prenait donc à tour de rôle, mes frères et moi, le week-end, mais en semaine, elle résidait dans ce foyer.
Et alors, il y a eu, en 2017, on pourrait appeler ça un point de bascule, parce que ça a été l'âge de sa retraite, et à sa retraite, la tutelle qui s'occupe de votre sœur a décidé de son placement dans un EHPAD.
Oui, alors c'était peut-être un peu plus compliqué que ça. Au décès de notre mère, c'est mon frère qui plus âgé, hein, qui a été le tuteur légal, on va dire, de Lydia. Et donc en 2017, un nouveau juge de tutelle a décidé que mon frère Bruno n'était plus capable donc d'être le tuteur légal pour différentes raisons. Et du jour au lendemain, donc la tutelle a été, on va dire, déplacée vers un organisme spécialisé qui a repris la tutelle complète de Lydia. Donc ça a été un combat important, puisque Lydia était informée de ça et a été très perturbée par cette décision qu'on a acceptée bon gré mal gré. On nous a fait comprendre que c'était le mieux pour Lydia et l'important pour nous, c'était son bien-être à la fois physique et mental. Donc on a accepté que la tutelle soit prise par cette association.
Voilà. Et son placement après le foyer d'accueil où elle vivait, son placement en EHPAD a été douloureusement vécu.
Ah oui, ça a été un choc, un traumatisme pour nous, puisque on va dire, lorsque Notre mère est décédée. Quand on posait des questions au directeur de cette résidence, on s'inquiétait pour elle et on lui posait la question comment ça va se passer au moment de sa retraite. Donc on nous avait assuré à l'époque qu'elle pourra passer sa retraite naturellement dans ce foyer, puisque plusieurs résidents de ce foyer sont à la retraite et continuent à vivre là-bas. Donc ce qui s'est passé, c'est que on va dire autour de 2016-2017, Lydia a commencé à avoir un certain nombre de troubles alimentaires. Disons que sa retraite a anticipé les décisions de pouvoir la déplacer de ce foyer pour la mettre en EHPAD. Donc c'est une décision qu'on n'a pas compris puisque toutes ses amies, toute sa famille, sa nouvelle famille était dans ce foyer depuis 2002. Donc on nous a rassurés en nous disant que de toute façon l'EHPAD sera beaucoup plus sain pour elle en termes de soins, de suivi alimentaire, et que de toute façon elle pourra avoir toujours des liens avec ce foyer-là, qui ne se sont pas passés puisqu'il y a eu quelques visites et en 4 ans, donc très très peu de sorties, enfin on va y revenir après peut-être.
Vous avez eu l'impression, Pascal, qu'à partir du moment où votre sœur a été placée dans cet établissement, l'EHPAD de Lisieux, qui est une antenne d'ailleurs du centre hospitalier de Lisieux, vous avez eu le sentiment que ça allait de mal en pis. Vous m'avez montré d'ailleurs des photos, si j'ose dire, avant et après, où on voit que non seulement le comportement mais physique de votre sœur se dégrade à vue d'œil.
Ah oui, tout à fait. Donc ça a été flagrant. Hein. Mes frères et moi avons constaté une dégradation de son état psychologique. On signalait, on alertait fréquemment que Lydia n'allait pas bien. Lydia nous appelait au secours en permanence au téléphone en nous disant que sortez-moi de là, sortez-moi là. Donc on a entrepris des démarches avec la tutelle pour pouvoir la déplacer de ce centre, puisque manifestement, donc elle n'avait pas sa place là-bas. L'équipe soignante qu'on interrogeait, les aides-soignantes, nous confirmait qu'elle n'avait pas sa place. Lydia avait besoin d'être stimulée intellectuellement en permanence, d'être on va dire de sortir, de s'amuser, d'être dans une ambiance qui n'était pas celle d'un EHPAD. Les EHPAD, l'EHPAD dans lequel elle était, la population, on la connaît, c'est une population très âgée, une pathologie Alzheimer. Nous sommes dans un contexte qui était inadapté, complètement inadapté à la pathologie de Lydia.
Vous m'avez dit d'ailleurs avant cet entretien que Lydia se sentait comme en prison.
Ah oui, tout à fait, c'était le cas. Donc c'est une structure fermée, bien évidemment, une structure fermée, peut-être adaptée pour les patients de cet EHPAD-là, mais pas pour Lydia. Donc la tutelle était au courant de ça, donc on a eu des démarches d'entreprise pour pouvoir trouver ce qu'on appelle un foyer d'accueil médicalisé qui puisse être une alternative. Pendant quasiment 4 ans, donc les démarches n'ont pas abouti, aucune structure n'était capable d'accueillir Lydia, puisqu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il y a quelques foyers, mais apparemment, ce qu'on nous disait, c'est que personne ne voulait accueillir Lydia, ou les listes d'attente sont très très longues.
Fait de vie, Philippe Bertin.
Le cas d'ailleurs de Lydia, de votre sœur, pose aussi le problème du placement d'adultes handicapés dans des établissements de soins qui soient adaptés à leur pathologie.
Tout à fait, c'est le gros problème, c'est cette... la problématique des adultes handicapés vieillissants où il n'y a pas de structure adaptée pour les accueillir. Donc pour moi c'est un scandale. Hein. C'est quelque chose qui, j'ai pas les statistiques en tête, mais vous avez des milliers de personnes dans le cas de Lydia qui n'ont pas de structure. Donc la seule solution c'est l'EHPAD. C'est l'EHPAD. Donc voilà, nous on comprend pas ce qui s'est passé. Donc on nous a assuré que Lydia allait être en sécurité, sécurisée dans cette structure par rapport à ses troubles du comportement, ces troubles qui ont d'ailleurs dégénéré en 2021 sur une occlusion intestinale. Donc elle devait être suivie, accompagnée, être surveillée en permanence.
Pardon Pascal, ces troubles alimentaires, ça se traduisait comment?
C'est une tendance à dérober de la nourriture. Tout simplement. Ça a été la raison invoquée par son foyer initial de pouvoir la déplacer à l'EHPAD, puisque l'ensemble des bâtiments n'était pas adapté pour pouvoir mettre tout sous clé. Hein, Lydia avait une tendance à dérober de la nourriture pour se nourrir. Donc, ce qui est tout à fait logique, puisque Lydia était en manque affectif, hein, à la fois donc du fait du décès de sa maman et puis de notre absence. Hein. Donc, quelque part, elle avait cette pathologie qu'on connaissait. Elle l'a toujours eue, d'ailleurs, même dans le passé. Notre mère nous disait souvent qu'elle avait cette tendance à dérober de la nourriture.
Et vous dites que, justement, cette tendance, cette pathologie conduisait, ou aurait dû conduire, en tout cas, à ce que Lydia soit placée sous surveillance et en permanence, et ça n'a pas visiblement été le cas.
Le 3 février, j'appelle ma sœur au téléphone pour lui dire que voilà, je serai présent pour son anniversaire le 15 février. Donc elle est joyeuse, je raccroche, j'ai l'infirmière au téléphone, je lui pose la question, comment va Lydia? Donc l'infirmière me dit que tout va très très bien, Lydia est contente de vous voir le 15 février. OK, le 4 février, donc j'ai un médecin urgentiste qui m'appelle qui m'appelle à 17h en me disant que Lydia s'est étouffée avec une madeleine et qu'ils n'ont pas pu la réanimer et qu'elle est décédée. Donc c'est de la science-fiction, c'est hallucinant. C'est quelque chose qu'on comprend pas. Donc d'avoir une présence d'une madeleine alors que Lydia est sur du mixé, alors qu'elle doit être sous surveillance complète en permanence, et on m'appelle en me disant qu'elle s'étouffe avec une madeleine. C'est les seules informations que j'ai un mois après son décès.
Fait de vie, Philippe Bertin.
Vous apprenez la mort de votre sœur au téléphone.
C'est beaucoup plus grave que ça. Donc c'est un traumatisme, c'est énorme. Donc j'assiste à cette scène. Je me déplace le lendemain pour pouvoir transférer son corps de la morgue, on va dire, enfin de la chambre funéraire de l'hôpital de Lisieux à Caen, pour pouvoir donc l'enterrer dans le tombeau familial. Et l'enterrement donc a lieu le 13 février. J'ai pas un coup de fil de la direction, j'ai aucune présence de la direction, pas un mail de condoléances, rien du tout. Je suis aujourd'hui sous le choc.
Nous sommes aujourd'hui début mars. Est-ce que vous avez eu des nouvelles depuis de la direction de cet établissement, de cet EHPAD? Est-ce que vous avez eu un appel du directeur ou de la direction de cet établissement?
Le seul appel que j'ai eu, puisque la tutelle a été bien évidemment informée par la structure de l'EHPAD du décès de notre sœur, donc le 4 février. Le 5 février, j'ai un appel de la tutelle en me disant que le jour du décès de notre sœur, la tutelle s'arrête, que c'est à nous maintenant à prendre en charge toutes les dispositions. Notamment pour les obsèques, alors qu'on avait prévenu longtemps à l'avance mes frères et moi, qu'est-ce qui va se passer avec notre sœur s'il lui arrive quelque chose? Est-ce que vous prévoyez de faire un contrat d'obsèques? On nous a simplement répondu que bon, on verra ça en temps et en heure. Et donc je reçois cet appel de la tutelle en me disant que c'est à vous de vous débrouiller maintenant, enfin peut-être pas dans ces termes-là, mais à vous de vous débrouiller pour pouvoir organiser ces obsèques, sachant que le département a un budget alloué de 3000 euros pour pouvoir gérer les obsèques. Donc nous sommes aujourd'hui à des obsèques qui nous ont coûté 7000 euros. Donc à nous à prendre en charge tous ces frais-là. Donc voilà, c'est pas tant le fait de prendre en charge ça, c'est surtout cette façon de faire, quoi, ce manque d'humanisme, ce manque de... Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas dans ce système. Je suis à la fois triste et à la fois très en colère. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite, mon frère Bruno et moi, c'est qu'on sache ce qui s'est passé, où sont les responsabilités, est-ce qu'il y a des responsabilités, pour plus que ça se reproduise, que les choses changent, qu'il y ait un véritable dialogue avec ce genre de structure, qu'il y ait, je sais pas, quelque chose qui soit... Non, je posais souvent des questions, quel est le projet thérapeutique pour Lydia à l'EHPAD? Comment elle est accompagnée? J'ai aujourd'hui aucun accès à son dossier médical. Mon frère Bruno a perdu la tutelle, on ne sait pas donc ce qui a été fait de l'argent qui était censé servir à Lydia pour sa vie de tous les jours. On sait qu'une grosse partie va, et ce qui est normal, à son hébergement, au financement de l'EHPAD. Mais nous, ce qu'on demandait, c'est que Lydia puisse sortir, d'avoir des activités, qu'elle puisse vivre tout simplement, comme vous, comme moi, qu'elle puisse avoir une vie et qu'elle n'a pas eu. On lui a volé cette vie pendant 4 ans. C'est dur ce que je dis, mais c'est voilà, c'est aujourd'hui je voudrais savoir est-ce qu'il y a une responsabilité de l'EHPAD ou pas dans cette affaire. Donc c'est ce qu'on va chercher à présent.
Vous engagez une procédure ?
Alors, pour l'instant, je parle pas de procédure, mais c'est en tout cas, on va demander par voie judiciaire le dossier médical de Lydia, les conditions de son décès, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux être informé. Je ne veux pas rester dans cette situation à pleurer en permanence et à me dire que voilà, Lydia est partie, mais dans quelles conditions? L'EHPAD a failli pour moi? Il y a une non-assistance à personne en danger. Lydia était en danger. On le savait. Elle a été opérée déjà pour une occlusion intestinale il y a 2 ans. Donc, on savait qu'il y avait déjà, donc, ce trouble-là. On lui a posé un anus artificiel. On nous avait dit à l'époque qu'elle allait l'avoir à vie. On m'appelle un jour en me disant que Lydia est à l'hôpital, elle est opérée d'urgence pour une genre de péritonite ou enfin bref, une occlusion intestinale pour avoir avalé quelque chose, on ne sait pas trop quoi. Et le lendemain, donc, je retrouve ma sœur avec une poche qu'on me dit qu'elle va avoir à vie, hein, une poche. Donc heureusement, donc, un an après, on a pu lui retirer cette poche par une nouvelle intervention chirurgicale. Donc l'établissement était alerté que Lydia était sujette donc à ces troubles-là, donc la vigilance devait être accrue. Aujourd'hui, donc, elle décède encore avec en ingurgitant une madeleine alors qu'elle elle n'était pas censée prendre des madeleines. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On cherche à savoir, donc, aujourd'hui, nous, tout simplement, ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a une responsabilité? S'il y a une responsabilité, qu'on l'assume, tout simplement.
On ressent votre colère en écoutant vos et en entendant vos mots. On ressent aussi beaucoup de tristesse. Vous m'avez dit notre famille est dévastée et ici, chez vous, on est entouré de photos que vous conservez de Lydia, des jours heureux de Lydia. Que vous inspire tout ça en regardant justement les photos de votre petite sœur? Vous l'appelez ma petite sœur.
Mais c'est un drame puisque, comme vous le savez, donc mon frère Rémi est décédé donc l'an passé à Noël 2021. Rémi est décédé donc a été enterré à Noël. Son anniversaire c'était le 13 février. Lydia a été enterrée le 13 février. On a toujours caché à notre sœur pendant un an donc le décès de notre frère puisqu'on voulait pas donc on voulait pas lui faire de peine. Donc elle nous posait pas de questions, mais on savait intuitivement qu'il y avait quelque chose qui se passait. Donc elle avait Rémi au téléphone très très souvent. Et donc c'est un nouveau drame qui arrive coup pour coup un an après. Donc les choses sont séparées, mais ben voilà, c'est difficile, hein, c'est douloureux. Enfin, c'est douloureux. Donc il y avait encore beaucoup de choses à faire. Lydia était jeune, 62 ans, c'est très jeune. Elle avait encore beaucoup de choses à faire. Mon frère Bruno donc la prenait donc pour l'emmener en voyage au Cap Vert. Elle réclamait souvent notre frère, quand est-ce que je repars au Cap-Vert? Quand est-ce que vous nous prenez? Quand est-ce que je quitte cette structure? Avec ces mots, elle le disait, je veux partir. Est-ce que tu as trouvé quelque chose d'autre? Elle nous le disait, elle voulait partir, elle nous appelait au secours en permanence. C'est terrible.
Il y a beaucoup de photos là autour de nous de Lydia. Laquelle de ces photos préférez-vous?
Cette photo où elle reçoit cette médaille du travail. Remise des médailles du travail donc par le maire de Lisieux. Elle était tellement fière de nous remettre cette photo, donc 20 ans de travail dans un CAT, donc elle était fière. Elle nous posait souvent la question, tu vois, moi je travaille comme si elle était voilà. Et puis elle nous posait souvent la question, quand est-ce qu'on va voir maman pour lui dire qu'est-ce que je fais. Donc elle voulait qu'on aille voir notre mère sur sa tombe assez fréquemment pour...
Vous êtes fier de votre petite sœur?
Oui, je suis très très fier. C'était... Moi j'ai envie de lui dire, je t'aime, c'est tout.
Podcast by Tendance Ouest.